Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditeurs et auditrices de la web Radio du Rage, bonjour, bienvenue à Radio Rage Voix de Jeunes dans le cadre de cette semaine de sensibilisation et d'information sur les migrants contre le racisme, pour le respect, la tolérance et la dignité des migrants. Cette semaine de sensibilisation que la Radio du Rage Voix de Jeunes organise à l'occasion de la Journée internationale des migrants qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année. Donc au cours de cette semaine, nous recevons des journalistes, des acteurs associatifs, politiques, intellectuels et chercheurs pour aborder cette question très sensible qui est importante et cruciale. Et cette fois-ci, nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau de la radio le journaliste Mustapha Bonfodel, qui est journaliste et il est écrivain, poète, dramaturge. Et merci, bonjour Mustapha.
Bonjour Abdelouah.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Et comme je t'ai dit, tu ajoutes un grand fan de Rage.
Eh ben merci beaucoup. Donc ça, on le sait depuis longtemps, oui, c'est pas aujourd'hui.
Oui.
Et justement, donc vous, en tant que journaliste, ça veut dire qu'il y a beaucoup vraiment parlé de traiter la question de l'immigration d'une manière générale, soit le haraga, soit les migrants subsahariens dans vos articles. Oui. Donc, on aimerait bien avoir votre avis sur la situation générale des migrants, notamment ceux de subsahariens qui viennent en Algérie. Comme vous le savez, ces dernières années, l'Algérie n'est pas uniquement un pays d'origine, mais elle est devenue un pays de transit, mais aussi un pays de destination.
De destination, exactement. Oui, oui.
Voilà, donc la situation générale des migrants qui vivent en Algérie.
Eh ben d'abord, je suis tout simplement scandalisé par ce qui se passe, parce que en 2017, on continue à traiter ou maltraiter le problème. On continue à user d'un vocabulaire, on continue à stigmatiser, on continue même au niveau officiel, c'est-à-dire au plus haut niveau de l'État. Je vise spécifiquement M. Ouihia, puisque la déclaration malheureuse qu'il a faite, ça remonte pas à des plombes, c'était juste le 9 juillet dernier, où sur la chaîne Nahar, il développe un discours en les accablant, en leur prêtant tous les vices du monde, en les criminalisant. Et quelques temps après, il est chef de gouvernement, donc le patron du gouvernement, de l'exécutif, excusez-moi du terme, je peux le dire, il tient un discours raciste. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, peut-être ils ne mesurent pas les conséquences d'un tel discours. Voilà, je prends juste ce fait-là parce que c'est... c'est-à-dire un arsenal politique, sémantique et bien sûr juridique qui fait que aujourd'hui je ne suis pas très très fier du sort que nous, Algériens, réservons à nos frères migrants. C'est-à-dire, quand on tient compte de l'histoire de ce pays, de son ancrage, du rôle que nous
ça
avons pu jouer...
Ça n'honore pas vraiment l'Algérie absolument, autant qu'État et autant que société.
C'est-à-dire quand je change... même si j'avais un an à l'époque à l'Alger de 69, du Festival panafricain, à l'Alger qui a reçu tous les grands leaders tiers-mondistes, exactement, terre d'accueil, décolonisation, tiers-mondisme, tout ça, je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Et je note, bien sûr, donc il y a un traitement, et surtout un mauvais traitement, qui ne cadre pas avec cette histoire. Il y a un problème juridique dans la mesure où, à ce jour, d'abord, il n'y a pas à ma connaissance, quand je vois le nombre de migrants à qui j'ai parlé et à qui je continue à parler, je ne connais pas autour de moi des migrants, par exemple, régularisés. Il n'y a pas de loi ni sur les réfugiés, ni sur le droit d'asile, alors que l'Algérie avait ratifié en 1963 la Convention de Genève sur les réfugiés. Et en 2004, elle avait ratifié aussi notre convention sur les travailleurs migrants. Et aujourd'hui, on note que...
Il y a une loi 0811 qui régit la présence des migrants en Algérie, mais c'est une loi
qui est répressive.
Qui n'est pas en compatibilité avec
la
convention.
Non, justement, la loi de 2008, c'est-à-dire, c'était le contexte de l'époque parce qu'il y avait effectivement beaucoup de haraga à cette période-là. Donc, ils ont pendu une loi, soi-disant, qui criminalise le haraga, qui criminalise le fait migratoire, tout simplement. Mais elle mélange tout, c'est-à-dire entre les réseaux de passeurs. C'est vrai, on peut le dire, bien sûr qu'il y a des gens qui profitent de la détresse humaine et qui profitent. Il y a l'industrie qui s'est un peu installée autour de ça, mais on ne va pas mettre tout le monde dans le même paquet. Et cette loi sur les dons des conditions de séjour et de circulation des étrangers en Algérie, elle aurait gagné à être accompagnée d'une loi spécifique pour le droit d'asile et les réfugiés. Or, il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas d'organe qui traite les demandes d'asile. Donc aujourd'hui, c'est l'UHCR qui traite tout ça. Donc, et l'UHCR, il ne peut pas grand-chose.
Oui, il n'a pas beaucoup de prérogatives.
Bien sûr, il n'a pas beaucoup de prérogatives. Il y a, je crois, un bureau des apatrides aux AE que je n'ai jamais vu. J'ai essayé de le toucher, mais à aucun moment on a réussi à savoir qu'est-ce qu'il fait au juste, ce bureau des apatrides. Et donc, on se retrouve en fait avec une situation où, avec tous les bons sentiments qu'on peut avoir, on ne peut pas donner les moyens à nos frères migrants de vivre dignement en Algérie. C'est-à-dire ni sur le plan du droit, ni sur le plan matériel, ni sur le plan politique. Et donc, voilà, c'est-à-dire il y a la société civile, bien sûr, qui fait ce qu'elle peut. Le RAJ, justement, il fait beaucoup. Il y a le Croissant Rouge, il y a quelques organisations type Caritas, le TISP, bien sûr la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, mais au-delà du volontarisme, on sent qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'instance où les migrants peuvent avoir leurs droits et se sentir, j'allais dire, en sécurité dans leur pays. Parce qu'au-delà de l'humanitaire, il faudrait d'abord qu'il y ait une protection au niveau politique, au niveau avec une politique migratoire. Et aujourd'hui, les éléments de cette politique, moi personnellement, je ne le vois pas, sinon avec des termes qui n'honorent pas justement notre passé, notre histoire.
Justement, ça veut dire avec l'absence d'une politique claire pour la prise en charge de ces migrants, donc on a assisté ces derniers temps à des scènes de violence. Absolument. Entre les Algériens et les migrants.
Oui.
Donc parce que je pense que ces scènes de violence, c'est un résultat de la non prise en charge de la question de la migration en Algérie d'une manière sérieuse et profonde.
Voilà.
Si on continue comme ça, ça peut se dégénérer. Ça peut avoir d'autres scènes de violence.
Exactement, parce qu'en fait, quand tu accules comme ça toute une population à une forme de clandestinité, les gens, ils essayent de loger là où ils peuvent, ils ne sont pas protégés socialement, ils n'ont pas leurs droits sociaux qui sont assurés, alors même qu'ils travaillent. Ils travaillent, c'est-à-dire, par exemple, ne serait-ce que le BTP, c'est-à-dire c'est un secteur qui absorbe énormément de migrants. Mais voilà, ils sont dans une espèce presque d'invisibilité sociale et urbaine qui fait que là où ils peuvent se réfugier, ils sont tout de suite pris à partie parce que déjà, on les montre du doigt. Parce que le discours structurant fait que d'emblée, ils sont sur la défensive et
il y a déjà un préjugement.
Voilà, il y a un préjugé effectivement qui est là, qui a structuré l'opinion. Et on n'a pas fait en sorte qu'on produise justement un climat d'accueil des migrants. C'est-à-dire que ce climat d'accueil, il est médiatique, il est politique, il est social. Et c'est ce paysage-là qui fait que le migrant ne va pas, entre guillemets, passer pour une tâche comme ça dans le paysage. C'est-à-dire dans le paysage humain, il faudrait qu'on arrête de penser que voilà, c'est une anomalie sociale ou démographique. Moi, je trouve.
C'est un phénomène vraiment naturel, déjà, la migration.
Bien sûr, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes le produit aussi de migration. Nous-mêmes, moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, même si ma famille vient de Kabylie, mais je ne suis pas sûr qu'on a toujours été de tout temps en Kabylie. Peut-être on était ailleurs. Moi, dans ma famille, on me dit on vient de Sarkhe Al-Hamra. Il y a eu pas mal de choses qui ont bougé. Voilà, exactement. Le nom de guerre de notre président Abdelaziz Bouteflika, c'est Abdelkader Mali, Al-Mali, parce qu'on dit qu'il était en front au Mali. Nous sommes aussi le produit de brassage. Enfin, ça, c'est, pour moi, c'est d'une telle évidence que faire ce plaidoyer que je suis en train de faire, c'est déjà en soi une anomalie, parce que je ne suis même pas censé expliquer l'évidence, c'est-à-dire que de tout temps, il y a eu ce qu'on appelle les migrations alternées entre les peuples Touareg, du Niger, du Mali, de l'Algérie. Donc ça, les migrations cycliques, ça a de tout temps été un fait tout à fait ordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient faire du troc ou faire, paître leurs troupeaux entre les frontières. Donc la notion même de frontière, c'était c'est quelque chose qui n'existait pas. Nous-mêmes, nous avons une nous sommes un pays d'émigration où nous avons une forte émigration en Europe qui a, enfin, on ne le rappellera jamais assez, qui s'est impliquée d'une manière décisive dans la révolution algérienne, que ce soit par le financement, par les armes, par aussi la diplomatie, par l'action politique en Europe, par l'action médiatique. Donc, moi-même, j'ai travaillé récemment sur les réseaux belges de soutien au FLN, et les Belges accueillaient les éléments de l'OS, accueillaient le comité fédéral, ils se réunissaient dans la maison de Serge Moureau, par exemple. Donc, si, imaginons une seule seconde que nous-mêmes, nous venions à renier cette histoire et que nous nous comporterions comme le fait aujourd'hui l'extrême droite européenne. Et c'est ça, c'est pour ça que je disais, quelque part, voilà, il y a une forme de trahison par rapport à ce passé.
On ne peut pas dénoncer ce qui se passe en Europe, le comportement des Européens envers les Algériens et les migrants maghrébins d'une manière générale, et de faire la même chose ici en Algérie. Donc on ne peut pas accepter le retour des damnés de la terre. Donc
c'est ça.
Il ne faut pas oublier notre appartenance à l'Afrique.
Absolument, bien sûr. Nous sommes aussi façonnés par ça, par Fanon, par Sankara, par Mandela, tout ça. Donc si maintenant c'est de la démagogie, on arrêtera de produire ce type de discours. Au moins, on sera fixé, c'est-à-dire par rapport au projet de société que nous voulons, c'est-à-dire un projet ouvert, un projet généreux. En fait, je ne parlais même pas, c'est même pas question de générosité, c'est juste une question de droit humain, c'est-à-dire dans ce cas-là, de plus simple. C'est-à-dire, je pense que d'abord, nous sommes en Afrique. Enfin, si j'ai bien gardé mes cours de géographie, donc nous sommes en Afrique, nous tendons à l'oublier, nous disant les Africains, alors que nous sommes Africains. Je vois des hashtags qui ont circulé sur les réseaux, pas des Africains en Algérie, tu te dis, mais... pas de Chéou en Algérie, pas de Kabyle en Algérie, pas d'Algérois en Algérie, je ne sais pas. Donc c'est un non-sens. Et comme tu parlais tout à l'heure justement des violences, effectivement, c'est quelque chose malheureusement qui m'a peiné. Parce que je me dis pourquoi on ne fait pas en sorte, à travers les médias, à travers l'école, à travers le théâtre, à travers le cinéma, à travers la culture, à travers de vraies campagnes, pour que cette image change. Par exemple, si je parle de l'école, moi, ma fille allait à l'école, je ne me souviens pas une seule fois, parce que je repasse toujours derrière pour toutes les leçons qu'elle fait, je ne me souviens pas une seule fois, même y compris dans les cours d'éducation civique, on lui a parlé de ça, on lui a parlé de l'autre, on lui a parlé de la tolérance, on lui a parlé
de vivre ensemble.
De vivre ensemble, exactement. Alors même, pour la petite histoire, c'est grâce à une initiative algérienne, en l'occurrence celle de Khaled Ben Tounes, de la Alaouia, la journée du 16 mai vient d'être officiellement adoptée par l'ONU comme journée internationale du vivre ensemble. C'est pour dire que quand même, nous sommes capables aussi du meilleur et pas que du pire. Mais voilà, je parlais de l'école. L'école est fondamentale pour changer de représentation, changer la vision de l'autre. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a totalement abandonné, ce terrain-là. Après, bien sûr, je ne vais pas être aussi méchant avec nos autorités, parce qu'il y a par ailleurs des choses qui sont positives. Par exemple, c'est des témoignages de migrants. Ils me disent, quand il y a des rafles de police, bien sûr, il y a eu ces scandaleuses opérations de police. Les rafles qu'il y a eu ces derniers temps, qu'il y a eu en décembre dernier, où ils ont été reconduits en frontière, dans des conditions terribles et indignes de notre pays. Mais à côté de ça, moi, ce que me disent aussi les migrants, c'est que des fois, quand il y a des contrôles d'identité, ils les laissent. C'est-à-dire, ils ne vont pas les embarquer au poste pour les... Je ne dis pas que...
Il y a des cas, par exemple, la scolarisation des enfants. Pour qu'ils ne veulent pas,
c'est normal. C'est quand même le produit d'un long combat, comme le soulignent justement les militants pour les droits des migrants. Ils disent c'est pas tombé comme ça. C'est arraché. C'est le produit des luttes, entre autres les vôtres, celles de rage. L'accès aux soins, c'est aussi le produit de ces luttes-là. Et donc, il faut continuer ces luttes pour arracher d'autres droits, pour arracher plus de reconnaissance. Mais je me dis, j'avais commencé par dire, pour juste faire un peu la part des choses, ça, c'est un spécialiste de la question, l'un de nos meilleurs, qui est Mohamed Saïd Muzet, qui me le disait dans une interview que j'ai faite il n'y a pas très longtemps avec lui. Il me disait, en fait, l'Algérie, son problème, elle ne sait pas communiquer sur ce qu'elle fait pour les migrants. Par exemple, il me dit, il y a en Algérie 8000 étudiants boursiers de l'État algérien, donc 90% issus du continent africain. Et en ce moment même, je travaille sur les Palestiniens, à peu près 200 et 300 étudiants palestiniens. Il y a bien sûr d'autres nationalités, mais pour les étudiants du continent, il y a 90%, et ils sont traités sur un pied d'égalité que les étudiants algériens. C'est-à-dire, alors qu'il m'a dit, en Tunisie, au Maroc, il y a entre 5000 et 6000, où les étudiants africains, ils payent. C'est-à-dire, ils payent pour leur cursus. Et ça aurait pu constituer une plateforme pour une autre politique.
Pour une autre politique qui prend en charge ces gens-là, quand qui, même, parce voilà. qu'ils sont là, ils sont là, ils sont des milliers, ils fouillent la misère.
Ah oui,
ils
bien font, sûr, donc, il y a des compétences qui sont là. Il y a les Nigérians, par exemple.
De développement, un
ah oui,
facteur
oui, oui,
local.
Oui. Ah oui, c'est ce que me disait justement Saïd Musette, il me dit, tu te rends compte, toute l'élite nigériane du Nigeria, qui est extrêmement talentueuse, et elle alimente les grandes universités américaines et anglaises. Donc c'est pour dire, même si bien sûr moi je suis pour les droits de tous les migrants, pas pour une élite, mm-hmm. je suis pas du tout dans l'immigration sélectionnée. Ah oui, absolument, ça serait scandaleux. Mais je dis juste que voilà, c'est-à-dire il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais sur le principe de base, je suis pour le droit à la mobilité, à la libre circulation, le droit de choisir son destin, de choisir le pays où on vit, bien sûr.
C'est un droit et ça vaut pour dans tout le monde. Ça international voilà, déjà que l'Algérie a ratifié. Mustapha, je vais revenir justement dans la politique migratoire d'une manière générale. Donc, la politique migratoire algérienne, on ne peut pas la dissocier des différentes politiques migratoires qui existent dans la région, celle de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, de l'Afrique d'une manière générale, qui donne plus d'importance à l'approche sécuritaire.
Ouais, ouais,
donc,
ouais.
on ne cherche pas à traiter ce phénomène en profondeur, de voir les raisons, comment trouver des solutions à moyen et à long terme. Donc, il y a tout de suite uniquement l'approche secondaire dans les pays comme de l'Afrique du Nord. Ils jouent un rôle de gendarme de l'Europe.
Voilà,
ils sont
c'est
là
ça,
pour
c'est
stopper
ça, c'est
le
ça.
Flux migratoire.
Ouais, ouais.
Donc,
ah oui, ça aussi, c'est quelque chose... Qui est malheureux, c'est-à-dire de privilégier toujours l'aspect sécuritaire, le traitement sécuritaire symbolisé par incarné par Frontex.
Qui donc... a beaucoup de prérogatives.
Ah,
Frontex
oui.
qui est
ah,
devenu,
bien sûr,
c'est, une c'est une agence civile,
oui.
mais qui a des
qui
pouvoirs
est...
d'une militaire.
Voilà,
voilà.
C'est une agence l'impression militaire. C'est l'OTAN de
voilà.
migration. Oui,
oui.
absolument. Et il y a d'un côté ça, et puis de l'autre cette propension à externaliser en fait les services de traitement des migrants de la part de l'Union européenne notamment. Qui veulent donc, qui attendent des pays de la rive sud de la Méditerranée et même du Sahel de traiter eux-mêmes, de faire le tri des populations, qui a le droit de monter vers l'Europe, qui n'a pas le droit, qui a le pédigré entre guillemets, qui n'a pas les compétences, voilà. Et donc à travers des centres de rétention et de payer ce service. Donc et en même temps de payer politiquement, c'est-à-dire de légitimer les pouvoirs en place. Et ça, je trouve, c'est d'un cynisme juste effarant. Et bon, fort heureusement pour l'instant, l'Algérie n'a pas accédé à la demande de nos Européens, c'est-à-dire de tenir un peu ces populations. Surtout qu'avec l'effondrement de l'État libyen, il y a eu aussi cette filière libyenne. D'ailleurs, là, la semaine dernière, j'ai publié un témoignage d'Ahnaga qui revient de Libye.
Oui.
L'Algérie, juste pour le mois de juin et le mois de novembre, il y a eu 54 et 46 qui ont été rapatriés de Libye. Mais les flux, bien sûr, ils sont plus importants. Et donc, maintenant, ils financent des milices. C'est-à-dire ce que racontait justement Mortar. Il s'appelle Mortar, la personne que j'ai interviewée. D'ailleurs, par recoupement, bien sûr, j'ai pu vérifier cette information. Ils étaient détenus par des milices. Alors, dans son cas, lui, à Sabrata, c'était plus la milice d'un gars qui s'appelle Ahmed Dabashi, qui est un flibustier, c'est un pirate des temps modernes, qui fait dans la traite humaine. C'est-à-dire, on assiste, d'ailleurs, on a vu les images sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de médias qui ont parlé de cette nouvelle traite, qui utilise les migrants comme, comme business. Et là, l'Union européenne est. Justement, complice de ça. C'est-à-dire, c'est ça qui est...
Son objectif, c'est de stopper le flux migratoire
voilà.
à
ils
tout se... prix.
Voilà, ils ferment les yeux sur les mauvais traitements,
voilà.
sur les comportements dégradants qui sont infligés aux migrants. Ils ferment les yeux pourvu qu'ils ne viennent pas, pourvu qu'ils ne montent pas dans les bateaux. Ils sont même prêts à faire couler des bateaux. Et je suis sûr et certain qu'ils savent très très bien qu'il y a des milices qui font ce travail-là, ce sale boulot. Et ils ferment les yeux parce que l'Italie, entre autres, l'Italie, elle a même financé à hauteur, d'après le journal suisse Le Temps, j'ai lu ça, à hauteur de, je crois, 5 millions d'euros, la milice de Dabashi pour s'occuper des migrants. Et donc on voit qu'effectivement, il y a cette politique migratoire qui est violente, qui est dégradante, qui est basée sur uniquement l'aspect sécuritaire, ils ne veulent pas du tout
en
entendre parler.
En violation totale des droits humains.
Bien sûr, en violation totale des droits humains, il y a des violences sexuelles terribles, il y a de la traite, il y a toutes sortes d'exactions, et elles ferment les yeux. Pourquoi ? Parce que voilà, ils voudraient que nous nous occupions un petit peu de nos, entre guillemets, de nos brebis, et eux, ils veulent garder pour eux, bien sûr, l'élite. C'est-à-dire, quand il s'agit de l'élite, des élites, c'est-à-dire pomper la substance grise, là, bien sûr, ils vous accueillent bien ouvert parce que ça leur coûte moins en termes de formation.
Justement, sur cette question, donc, on a vu en Europe, même ici en Algérie, donc, il y a un rôle important joué par les médias, les journalistes, pour faire la lumière sur ce phénomène, vraiment, qui prend de l'ampleur de plus en plus. Et donc, il y a quand même, c'est grâce au travail, recherche de beaucoup de journalistes, que la question est médiatisée, où les gouvernements sont interpellés, l'opinion internationale. Mais ici en Algérie, ce qu'on constate, malheureusement, ces derniers temps, il y a une campagne qu'on peut qualifier raciste.
Oui,
il y a des discours haineux dans la presse, dans quelques journaux, dans quelques même télévisions privées, donc qui n'honorent pas vraiment l'Algérie. C'est des appels directement haineux envers ces populations subsahariennes qui viennent ici en Algérie. Donc, en tant que journaliste, j'aimerais bien avoir votre avis et d'essayer de comprendre quelles sont les raisons. Est-ce que c'est planifié? Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce que c'est par méconnaissance? Est-ce que ces comportements-là, ces articles, au lieu de parler, de donner une image réelle, de traiter l'information d'une manière objective, donc on se verse dans des discours haineux?
Absolument. Bah, tu as très très bien diagnostiqué la chose, mon cher Abdelwahab. C'est-à-dire, ce que je vois, en tout cas ce que je lis, n'honore pas du tout la profession, n'honore pas la centaine de morts qui sont morts pour ce métier, pour les valeurs qu'est censé défendre ce métier. Je ne vais pas du tout faire dans le corporatisme et je ne pense pas du tout que Marbel et Djawout Yevsah soient fiers. Je ne pense pas qu'ils soient fiers de nous, d'écrire ces gens-là,
voilà,
ils portent le sida, ils sont porteurs de maladies, ils véhiculent le terrorisme. Je ne pense pas du tout que Marbel soit de cet avis-là. Et je pense que, en fait, l'une des failles, des grandes faillites qui sont les nôtres, c'est surtout au niveau de la formation, avant que ce soit au niveau de l'information. Parce que l'information déforme dès lors qu'il y a malformation dans la structure même du travail d'informer. C'est-à-dire, parce que nous avons été dressés, entre guillemets, que ce soit au niveau du vocabulaire, au niveau du regard, au niveau du rapport à l'autre, dans une forme de xénophobie primaire, qui n'est même pas réfléchi au fond, parce que moi j'ai fait un travail déjà à mes débuts de journaliste, à la fin des années 90, les Algériens sont-ils racistes, qui était sorti, ce dossier sur Liberty, qui avait fait beaucoup de bruit déjà à l'époque, en travaillant en fait sur les mots, en travaillant sur les attitudes, on se rend compte en fait que les Algériens ne sont pas fondamentalement racistes. En fait, c'est parce qu'il suffit juste de creuser un petit peu.
Il y a des situations qui les poussent des fois à faire des comportements.
C'est-à-dire il suffit de faire juste une petite campagne, un petit atelier, petite
sensibilisation.
Voilà, sensibilisation, un petit travail éducatif et ça part. Hein. C'est-à-dire les gens, ils savent, par exemple, je sais que les gens sont extrêmement sensibles au discours religieux. Dès lors qu'ils savent que Bilal, premier mouadhin islam, il était noir.
Donc ça change la vie.
Voilà, est-ce que
ça
tu
change...
pourrais être raciste envers Bilal? Allez, non, je dis, mais tu vois, c'est-à-dire, tu lis tout le temps que l'islam, harar al-mar'a, harar al-abid, c'est l'islam, c'est-à-dire... Il a quand même, peut-être pas d'une manière radicale, parce que ça s'est fait ça, sur des périodes successives, mais fondamentalement, il a apporté un discours égalitaire. Rien que ça, tu imagines, si tu associes les imams, le travail, par exemple, qu'il y a des conférences le vendredi, c'est quoi Salat al-Jumu'ah? C'est des conférences hebdomadaires à l'échelle nationale. Pourquoi on ne reconsacre pas, ne serait-ce qu'une khutbah, wahida, khutbah?
Alors qu'elle considère le khutbah pour des questions politiques.
Oui, parfois, ça passe sur des choses vraiment secondaires. Mais je veux dire, si, par exemple, on utilise cet outil comme outil pédagogique, je pense que ça pourrait avoir de l'effet. Donc, bien sûr, quand tu as commencé à parler des médias, les médias, oui, nous avons une très, 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 très lourde responsabilité. En fait, il y a d'un côté... le manque de formation des journalistes, donc ils reproduisent comme ça machinalement ce qu'ils entendent. Par exemple, si, bien sûr, si moi je suis pas formé, tu m'envoies par exemple pour ce qui s'est passé la dernière fois près de Dal Ibrahim, tu vois les gens qui vont prendre le journaliste, ils vont se plaindre, il y a ceci, il y a cela, il va rapporter ça sans filtre et ça te fait un papier raciste. Mais dans son esprit à lui, il fait son travail parce qu'il dit oui, mais j'ai tendu le micro aux gens, voilà les propos qu'ils ont tenus. Bon, s'il est un tout petit peu professionnel, il va prendre le son de cloche de l'Iran, il pourrait avoir deux récits. Mais sauf que tu ne sais pas qu'il y a des mots moi personnellement, je ne les reprends pas dans mon article. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit des choses qui sont un discours raciste, moi-même, je peux dire, je me censure. C'est-à-dire, je ne vais pas le mettre comme ça. Je peux dire, à la limite, voilà, il y a des tensions, ça s'arrête là. Mais déjà, de reproduire, de colporter ça. Après, il faut se demander pourquoi les gens tiennent ce type de discours. Pourquoi ils tiennent ce type de discours? Parce que justement, on n'a jamais eu.
Il n'y a pas un travail.
En amont, voilà.
D'information, de communication.
Exactement, pour que les gens, justement, tiennent déjà un autre discours. Après, bien sûr, si on livre les migrants à eux-mêmes, il n'y a pas du tout d'assistance comme elle se doit de la part de l'État. Bien sûr qu'après, les gens ils peuvent avoir se retrouver dans des situations de conflit, de confrontation directe avec la population algérienne. Et à ce moment-là, on aura créé les conditions pour que le racisme soit sanctifié. Et moi, mon travail de journaliste, c'est précisément d'agir sur les mentalités, d'agir sur les lois, d'agir sur le vocabulaire. Et ce travail-là, je dois aussi souligner une chose, c'est que les staffs éditoriaux au niveau des journaux, eux-mêmes, malheureusement, il conforte cette situation, parce que le petit journaliste qui arrive, parce que les journaux, il y en a eu tellement en Algérie qu'on a eu énormément de petits de journalistes qui n'étaient pas suffisamment formés, qui se retrouvent tout de suite recrutés, qui sont sur le terrain. Mais les chefs de rubrique, les rédacteurs en chef, les directeurs de rédaction, tout ce staff-là, c'est son travail aussi un petit peu d'encadrer. Et ce travail d'encadrement, on n'est pas fait. C'est-à-dire, dans mon esprit, on ne peut pas être rédacteur en chef si on n'a pas
une formation.
Oui, c'est-à-dire au niveau conceptuel, au niveau éditorial, politique, culturel, pour assumer une telle fonction. Parce que avec tous les papiers qu'il a à traiter, je pense des choses, c'est de faire attention aux propos blessants, aux propos racistes, aux attentatoires à la dignité humaine. Je pense que c'est la base de la base. Si on l'a pas ça, on ne peut pas faire ça.
Logiquement, un journaliste ne peut pas traiter la question de la migration s'il ne connaît pas les droits humains des migrants, les conventions que l'Algérie a ratifiées. Donc, il doit avoir quand même une connaissance générale du sujet.
Et juste, tu m'as posé la question. La solution, c'est de faire des ateliers.
Des ateliers
de formation.
Très bien. Et en tant que journaliste, vous avez suivi cette question, mais aussi en tant que donc vous faites du théâtre, vous écrivez des pièces théâtrales, même derrière moi, vous avez présenté une pièce théâtrale qui raconte l'histoire d'un haraga. Donc petit brièvement comme ça, si vous pouvez nous présenter cette pièce théâtrale.
Ah oui, c'était une période où j'ai beaucoup travaillé sur le haraga, effectivement. J'ai fait plein de reportages, j'ai travaillé avec les familles, j'ai travaillé avec des organisations, des ONG, tout ça. Donc c'était au milieu des années 2000. Et donc j'ai beaucoup travaillé à l'ouest de l'Algérie. Après, j'ai travaillé aussi à l'est. Et un jour, dans mon travail de dramaturge, j'ai une amie qui s'appelle Émilie Petit, qui est française, et son compagnon à l'époque est italien, il s'appelle Attilio Schilacci. Ils avaient un petit voilier et ils m'avaient proposé de faire une résidence. Alors, une résidence de création, ça veut dire on invite un artiste et il crée dans des conditions précises, déterminées. Et il y avait avec moi l'écrivain Adlan Maddi. Et donc, moi, je leur ai fait part de mon désir de vivre ce que vivent les haragas au cours d'une traversée. Alors, on a organisé...
Vous avez programmé une traversée.
Une traversée qui s'est passée fin septembre, à partir du 30 septembre à peu près,
2009.
De Annaba jusqu'à la Sardaigne. Exactement, ça s'est produit dans des conditions météorologiques déplorables. Vraiment, c'était terrible et on a risqué vraiment...
Donc, vous
vraiment
avez senti, vécu un peu les moments difficiles.
Oui, j'ai vécu la
traversée
de bout en bout. Oui, c'est-à-dire, on est parti en bateau, on a mis, je crois, 27 heures. Et pareil, au retour, les conditions météo étaient abominables, et si bien que... on a failli, en tout cas, je saurais dire, peut-être Attilio est bien mieux placé que moi, le skipper, pour déterminer la gravité de la situation, mais moi, en tout cas, je l'ai senti dans mon corps comme quelque chose. Et à partir de là, j'ai écrit donc une pièce qui s'appelle « De mon hublot et terrain, je te salue humanité, et te dis blablabla », qui parle d'une mère qui va chercher son fils, qui s'appelle Tariq. J'ai appelé un peu, ça c'est un peu mon style, il y a beaucoup d'humour, même quand c'est grammatique. Pour atténuer un peu la gravité du propos, il s'appelle Tariq ibn Harag, en référence bien sûr à Tariq ibn Zayyan. Et donc il y a comme ça deux récits qui s'écrivent entre la maman
et
la parole de la mère et la parole du fils. Voilà. Et on a deux mouvements, le mouvement de la construction du lien au moment où Tariq, que j'appelle proto-Tariq quand il est à l'état fœtal, donc la construction du lien quand il est dans le ventre, dans la mer, ce que j'appelle la mer amniotique de Yasmina, sa mère, et le moment où il est en train de se noyer en Méditerranée. Et là aussi, il parle à sa mère. Et donc, cette pièce-là, je l'ai écrite au moment où moi-même, j'étais enceinte, guillemets, avec ma femme Amina. On attendait notre fille qui s'appelle Leïla. Et donc, c'est aussi une manière de m'adresser à ma fille, mais à
il
travers ma fille. Elle a 7 ans et demi. Et maintenant, je suis papa d'une autre fille qui s'appelle Nina. Et donc, si tu veux, c'est une manière de dire quel monde nous leur naissons. Donc, c'est aussi cette violence du monde contemporain que je voulais raconter. Mais bien sûr, ça reste aussi un hommage et une pensée pour les parents, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les familles de Haraga. Je pense beaucoup à notre ami Kamal Blab de Constantine. Parce que j'ai vu justement comment ils ont porté cette question à bras-le-corps et combien justement ils donnent d'eux-mêmes pour que...
Pour connaître la vérité, le sort de leur...
Et pour qu'on arrête de juger nos frères Haraga et qu'on essaie plutôt de les comprendre, de comprendre pourquoi les gens partent.
Voilà, exactement. Donc justement, dans ce sens, dans la pièce théâtrale que vous avez écrite, je vous pose une question, mais je vais essayer de reprendre la même phrase de la mère Yasmina à son fils Tarq ibn Harak. Ouais. Quand il a posé la question, il dit « En quoi avons-nous fauté ?» Une faillite de la structure familiale, de l'État, de la société. Donc cette situation aujourd'hui, des jeunes Algériens qui fuient le pays, l'Algérie. Donc, de quoi avons-nous fauté
Non, on a fauté les raisons. Non, la première raison, c'était simplement parce qu'on a enfreint une loi fondamentale du monde, de la nature humaine, qui est le droit de circuler librement de Ardoulaye Wassia, comme on dit. C'est-à-dire, les gens, ils sont juste libres de foutre leurs pieds là où bon leur semble. Et donc, à la base, déjà, le dérèglement, il est dans l'organisation du monde. C'est-à-dire, comment avant, les gens pouvaient partir où ils voulaient sans visa, quand l'Algérie avait cette belle respectabilité internationale qu'on y connaît. Et après, avec toute cette hystérie des frontières, on a fabriqué un monde de plus en plus étriqué, de plus en plus petit, et si peu généreux. Donc à la base déjà, parce que moi dans mes reportages, dans mes enquêtes sur les Haraga, et dernièrement Mokhtar me le disait, celui qui revient de Libye, il me disait avec moi, il y avait des gens qui avaient mon situation. En tout cas, qui pouvaient...
Ça faisait son bien, ils ont un boulot.
Parce qu'ils étaient dans la pauvreté, en gros c'est ça. Mais il me dit, moi, c'est pas le social qui m'a poussé à partir, c'est la société. Bon, lui, il le dit avec ses mots. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit. Mais d'abord, juste, les gens, ils veulent voir du pays, ils veulent voir du monde, découvrir d'autres façons d'être. Et donc, on ne peut pas le reprocher. Après, ici, bien sûr, nous avons aussi notre part. C'est-à-dire, les acteurs sociaux, les gens qui font que le pays soit ce qu'il est, à commencer par les gens qui se maintiennent au pouvoir à ce prix-là, c'est-à-dire presque d'une guerre sociale, ils portent une très très grande responsabilité dans ce qui arrive à nos enfants. C'est-à-dire, je leur dis juste lâchez le pouvoir et laissez-nous vivre, laissez-nous respirer.
Effectivement, donc on cherche que de vivre en dignité.
Voilà.
Mustapha, on est arrivé à la fin de cet entretien. On veut bien malheureusement, si on peut discuter encore des heures. Un message à transmettre.
Un message juste
à l'occasion
du
18 décembre.
Une pensée amicale à mon ami Diallo, dont je ne suis sans nouvelles. Diallo de Guinée équatoriale, que je voyais régulièrement à côté de là où j'habite, et j'ai pas de ses nouvelles. Il me disait qu'il y avait des rafles de police. Ben j'espère qu'il va très bien.
J'espère qu'il va très bien, que beaucoup
et
de
gens, bien sûr,
migrants,
ils vont bien. Migrants, bien
sûr. Merci Mustapha pour cet entretien. Chers auditeurs et auditrices,
merci
Mohand sur la technique, et on vous donne rendez-vous avec un autre entretien. Au revoir.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre
pour une parole libre.